when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte d'un autre podcast qui s'appelle Histoire de Daron où j'interviewe des pères sur leur paternité. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure, chaque semaine, avec des personnes exceptionnelles. Cette semaine, je reçois Valérie Damidot qui s'est fait connaître grâce à l'émission Déco sur M6 avant de venir chez TF1 et elle a lancé récemment sa chaîne YouTube. Dans cette interview, on parle de la vie de Valérie avant M6 parce qu'on peut dire qu'elle a pas mal bourlingué. On parle de Charlie et Lulu, de son passage chez Mireille Dumas, puis d'une anecdote fabuleuse et improbable avec l'acteur Steven Seagal. On parle aussi de la façon dont elle est devenue nounou dans la première saison de la Star Academy, de sa participation dans Danse avec les Stars et du lancement plus récent de sa chaîne YouTube et de sa passion pour les jeux vidéo. Bref, c'est très enlevé. Comme d'habitude dans Histoire de succès, j'espère que ça vous plaira et que vous apprécierez cette interview avec Valérie. Est-ce que ça ne te dérange pas de tenir un peu le micro pas trop ?
Bonjour, bonjour.
Je vais te
Je suis en angoisse du micro, tu sais que c'est comme ça que j'ai chopé la grippe H1N1 au karaoké.
Je viens de te changer la moumoute, hein, pour info. Non mais je fais en sorte
de... Je suis en stress de micro. Non mais c'est vrai que je l'ai chopé comme ça au karaoké, on est trois à l'avoir chopé le même soir. À l'époque, je te parle de ça il y a 10 ans.
H1N1, ouais.
Ouais, j'ai chopé au karaoké. Mon micro.
À cause du micro.
Ouais. J'en ai bien chié avec cette grippe. C'était super.
T'as chopé le Covid ou pas, non ?
Non. Ah non, Inch'Allah, je ne l'aurai jamais, ce truc. Putain, oh là là, au secours.
En tout cas, ça ne sera pas avec mon micro aussi.
Non, d'accord.
Peut-être parce qu'on est trop près.
Pourquoi, tu l'as eu ?
Non.
Ah, bah alors, écoute.
Ça va.
Parce que si tu l'as eu, c'est bien, hein ?
Mais je ne sais pas, peut-être que je l'ai eu.
Ah, peut-être que t'es asymptomatique.
C'est un... Tu sais, ce truc ?
Eh bien, allons-y, cher ami.
Bon, Valérie, parlons de ta vie, ton œuvre, si tu veux bien. Pour Valérie Damidot, est-il encore besoin de te présenter ?
Oh bah quand même,
c'est
présentons-nous, disons que...
Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais plein de choses en fait, je dirais que t'es entertaineuse. Ça te va ou pas ?
Ouais, ça me va bien, j'aime bien le mot, parce que c'est un peu ce que j'aime faire dans la vie, c'est entertainer les gens. Pas les entarter, hein, les entertainer. Non, j'aime bien l'idée de divertir les gens, de leur apprendre des trucs tout en se marrant, en étant un peu libre de faire des choix... J'aime pas trop les routes bien tracées, moi, tu sais, j'aime bien les chemins un peu de traverse.
On va reparler de ton parcours, parce que t'as l'air d'avoir...
On l'a bourrilingué, la vieille, hein, ça, c'est sûr, hein.
La première question que j'aime poser c'est, à mes invités, c'est à quoi ressemblait Valérie quand elle avait 7-8 ans ?
Eh ben, écoute, j'étais, bizarrement, une petite fille ultra timide. Vraiment.
Okay.
Je rougissais dès que tu me disais bonjour, j'étais hyper timide. J'étais plutôt sauvage. J'étais bien que quand j'étais avec les animaux, moi. Tu sais, je faisais beaucoup de cheval. J'étais avec mon chien, j'étais avec mon chat, j'étais avec mes petits bouquins. J'étais plutôt une solitaire. J'étais une petite fille hyper solitaire et hyper timide.
Ça venait d'où ?
Je sais pas. J'ai jamais... Parce que j'avais pas des parents qui me demandaient d'être spécialement timide ou sage ou je sais pas. Je sais pas du tout. Parce qu'en plus, j'ai été élevée avec mes cousins et mes cousines. Donc j'étais pas... Même si j'étais fille unique, j'étais quand même élevée dans un environnement presque de frères et sœurs. J'en sais rien. C'était ma nature, en fait. Mon père était très timide. Toute sa vie, jusqu'à la fin, il a été d'une timidité et d'une discrétion toujours. Et je pense que je tenais ça de lui. Contrairement à ma mère.
Est-ce que t'es en train de forcer ta nature ?
Bah écoute, j'ai commencé à forcer ma nature quand j'ai changé de lycée. Bizarrement, j'ai été au lycée dans une école un peu, on va dire, expérimentale qui s'appelait le cours des petits champs. Et c'était un lycée un peu, c'était l'époque, je suis très vieille, donc c'était les années 80. Et c'était la fin des 70s et il y avait une école qui s'appelait Summer Hill. Et c'était, il y avait eu un livre qui s'appelait Libre aux enfants de Summer Hill, où on t'expliquait à quel point il fallait laisser les enfants s'exprimer, être libre, etc. Et le directeur des petits champs, qui s'appelait Marc Biraud, expérimentait ça un peu aux petits champs. Donc on tutoyait les profs, on choisissait nos horaires de cours, on était très peu en classe, c'était assez ouvert, on faisait du théâtre, on faisait des cours de cinéma, on faisait plein de choses. Et là, d'un seul coup, ça m'a un petit peu décoincé, dit. J'étais beaucoup moins timide après.
Est-ce que
jusqu'au lycée, j'étais timide.
Mais est-ce que à l'école de ce là, t'avais du mal à t'intégrer, etc. Au collège avant ça ?
Non, j'étais pas. J'avais des copines et tout, mais parce que j'étais plutôt rigolote, tu vois. Même si j'étais timide, j'étais toujours une nature positive. Donc j'embarquais tout le monde un peu dans mes jeux, mais j'étais quand même un peu timide avec les adultes. Tu m'aurais jamais vu tenir une conversation avec les profs. Je pipais pas. Alors que après, j'étais plus bavarde, on va dire.
Qu'est-ce que tu fais alors dans cette école expérimentale ? Ça existe ?
Je me suis régalée. Je ne sais pas si ça existe encore,
c'est une
le cours de petit champ.
Sorte de Montessori avant
l'heure. Oh, Montessori avant l'heure. Je pense que si ça existe, c'est plus pareil, parce qu'à l'époque, c'était vraiment nouveau. Bah, écoute, j'ai passé 3 ans de rêve où je me suis régalée, où j'ai vraiment appris des trucs sympas. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Et pour le coup, ça m'a fait un bien fou, cette école, parce que je pense que je ne serais pas passée par cette école. J'aurais mis un tout petit peu plus de temps à m'ouvrir davantage, quoi. J'étais tellement...
C'est à cause de quoi, tu penses ?
Que je me suis ouverte ?
Ouais.
Bah, je pense que les profs sont étaient tellement... En fait, les profs que j'avais connus jusqu'à présent, c'était des mecs qui étaient là pour te... Taisez-vous ! C'était genre le prof tout-puissant qui te dispensait son savoir, avec passion ou pas, d'ailleurs souvent pas. Alors que les petits champs, il y avait vraiment des profs qui aimaient leur métier et qui avaient tous des activités à côté. Moi, je me rappelle d'Henri Fischer, qui était mon prof de français, que j'adorais. Il avait un resto. Éric Sarner, mon prof d'anglais, il était journaliste à Libé. Enfin, tu vois, ils avaient tous des activités à côté qui faisaient qu'ils étaient vraiment passionnés. Et venir enseigner à des mômes, c'était un truc qui leur faisait vraiment plaisir. Donc, il n'y avait pas de « Ah putain, je vais me taper encore 30 connards ». C'était plus « Bon, aujourd'hui, les gars, on va faire ça. » Et on va, voilà. Donc, c'était hyper intéressant parce que d'un seul coup, bah, ils te donnaient envie d'apprendre, envie d'être là avec eux. Donc, bah, d'un seul coup, je me suis dit « Mais c'est génial, l'école, en fait, comme ça. » Ça devrait être que comme ça, à l'école, d'ailleurs. Mais bon, c'est pas tellement possible. Mais j'avais vraiment envie d'aller en classe, alors qu'avant... Tu m'aurais donné le choix entre rester chez moi, lire un livre ou aller à l'école. Je restais chez moi.
Et tu découvres quoi là-bas ?
Eh ben, je découvre que j'aime bien jouer la comédie, que j'aime bien monter sur scène, grâce à mon prof de français qui s'appelait Gilles Torrent, qui était scénariste pour André Téchiné. Donc, il nous faisait écrire des scénarios. Il nous avait emmenés sur un tournage de film sur Hôtel des Amériques. Il nous donnait envie vraiment de jouer. Et on avait fait un court-métrage qui s'appelait L'heure du loup. Qu'est-ce que c'était drôle. Donc, il nous avait donné à chacun des petits rôles, des petits trucs. Et c'est vrai que je me suis dit, mais c'est génial de monter sur scène. C'est génial de jouer un personnage. Parce que là, du coup, bah, t'es plus toi. Donc, c'est génial. Et les gens réagissent et tout. Alors là, ça a été... libération pour moi, c'était génial. J'ai vraiment eu, je me suis dit, bah, putain, en fait, voilà, ce que je veux faire dans la vie, c'est, avant ça, je voulais être écuyère de cirque, hein, donc bon. Mais là, je voulais vraiment faire du divertissement, amuser les gens, en fait.
Pourquoi quand tu dis écuyère de cirque, tu fais non ?
Parce que je voulais être écuyère de cirque. Moi, je voulais partir en troupe. Tu sais, moi, j'aime bien tout ce qui est groupe, troupe. Même si j'étais timide, j'aimais bien le mouvement. La foule, les gens autour de moi, etc., le bruit. Et je me disais que écuyère de cirque, c'était génial. D'abord parce que j'aimais les chevaux, et en plus, bah, j'étais dans une troupe. Et puis le cirque, quoi. C'est... Pour le coup, si tu veux, c'est, tu divertis les gens, et en même temps, tu fais du cheval, qui est un truc... Alors que fondamentalement, j'aime pas les animaux sauvages dans les cirques, tu vois. C'est mon maximum, c'est le cheval.
Ouais.
J'aime pas trop les numéros de fauves, j'aime pas trop les animaux sauvages dans les cirques. Je milite même contre. Dans les zoos, dans les cirques, dans les delphinariums, tous ces trucs-là. Ça, pour le coup, ça m'a toujours traumatisée. Les animaux enfermés, c'est pas mon truc. Mais le cheval, je trouvais que c'était... D'abord, c'est sublime de faire du cheval, de faire des acrobaties et tout. C'est mon maximum dans un cirque. Mais l'ambiance du cirque, les clowns, les acrobates et tout, j'aime bien.
Et tu faisais, et t'avais testé ça avant ou
Tu sais, à l'époque, quand j'étais petite, il y avait pas l'école du, fallait aller à l'école du cirque.
Ah ouais.
Il y avait pas comme maintenant. Moi, mes mômes, quand ils étaient petits, on allait dans des centres de vacances, ils avaient l'école du cirque. Moi, j'avais pas ça. J'ai été une enfant malheureuse. Non, je déconne. Mais j'aurais adoré qu'il y ait l'école du cirque. Tu rigoles, j'aurais adoré. Vraiment, pour le coup, ça m'aurait vachement plu.
Qu'est-ce qui se passe alors? T'as le bac, c'est ça après cette école?
D'abord, j'ai raté le bac la première année, hein, parce que sinon, c'est pas drôle, je me suis pas réveillée. Je l'ai repassée.
Tu t'es vraiment pas réveillée?
Je me suis vraiment pas réveillée. Vraiment. J'ai totalement foiré mon épreuve de maths. Le mec m'a dit, on va faire les fonctions exponentielles. Exponentielles? Tu sais, la probabilité, les calculs des probabilités et tout ça. Mais j'étais là, mais j'en sais rien, moi. Il y a combien de balles blanches dans le sac avec les boules noires? Pff, tu m'emmerdes, ça va me servir, ça, dans ma vie. Donc bon, bref, j'ai planté mon bac. Avec brio. Vraiment avec brio, j'ai bien planté mon bac. Du coup, ma mère a dit, bien, alors c'est sympa le lycée autogéré, là. On va aller dans une boîte à bac. Ah putain, je me suis retrouvée dans une boîte à bac.
Ah, pour ta terminale, donc?
Ah putain, pour ma deuxième terminale, ouais. J'en ai chié. Je me suis fait des bons potes, mais j'en ai chié. Putain que j'en ai chié. Mais j'ai eu mon bac.
Mais c'était chiant, d'autant plus chiant qu'il fallait que tu reviennes dans un rythme...
C'était horrible. On fumait plus en classe, on tutoyait plus les profs. Putain, c'était affreux. Hein. Tu rigoles, au petit champ, on fumait en classe, on tutoyait les profs, on fumait même des ouinges. Enfin bon, c'était n'importe quoi, cette école. Mais non, j'en ai chié, mais j'ai eu mon bac. J'ai pas eu de mention, hein, mais j'ai eu passable. Mais j'ai eu mon bac.
Donc parce qu'attends, quand t'étais en terminale, c'était quand? C'était
80, j'ai passé mon bac 82 et 83.
Ah ouais. C'était une autre époque.
Ah, c'était une autre époque, monsieur. Par exemple, pour le bac français, on avait 30 livres à présenter. Putain. Quand ma fille a passé le bac français avec 6 textes, je sais, pardon? 6 textes? Mais c'est du foutage de gueule. Je dis, mais putain, mais nous, on avait 30 bouquins. C'est une bande de fumeurs, là. Donc, nous, c'était à l'enfer. Hein. Le programme du bac, c'était... Et donc, voilà. Et,
t'as ton bac au forceps?
J'ai mon bac au forceps, mais je l'ai. Je suis partie à la fac, à la Sorbonne, en lettres modernes. Très vite, j'ai compris que la fac, c'était pas pour moi. Trop de gens dans les amphis qui écoutaient pas, trop de bordel, trop de gens qui refont le monde, ça avance pas. Oh là là, boum. Donc, je me suis dit, bon, faut que je bosse, là. C'est pas du tout pour moi. Il se trouve que mon père avait une copine qui avait une boîte de com qui s'occupait du bateau de Jean Riguidel, qui s'appelait le William Sorin, et qui avait besoin d'une petite main. Donc je suis rentrée directement dans la case boîte de com, et je m'occupais de la com du bateau William Sorin.
Wow.
Donc j'ai fait ça pendant un an. Et après, je suis rentrée dans un journal qui s'appelait PIC. C'est comme ICF, tu sais, c'est les annonces de commerce à vendre.
Ok.
Donc toute la journée, j'appelais des commerces et je disais bonjour. Est-ce que votre commerce est à vendre? Oui, non. Alors le mec me disait oui, super. Vous êtes dans la région Pas-de-Calais. Votre commerce fait combien de mètres carrés? Et à quoi nanana? Eh bien, un de nos experts va passer vous voir. Donc mon but, c'était de remplir un maximum de fiches avec des mecs qui vendaient leur commerce pour les transmettre à la fin de la journée pour que ça soit transmis aux commerciaux qui allaient donc chez les gens qui vendaient leur commerce pour leur vendre de l'espace.
Waouh!
J'ai fait ça pendant un moment. Comment te dire?
Donc direct dans le boulot, quoi.
Voilà, et après, j'ai fait des petits boulots à droite, à gauche. J'ai loué des jet skis, j'ai loué des scooters des neiges, j'ai tenu un club hippique. J'ai fait plein de merde, en fait. J'ai eu un resto. Et puis un jour, j'ai rencontré Charlie et Lulu.
Oh! Alors,
quand je tenais mon resto.
N'oublie pas qu'on a potentiellement des auditrices et des auditeurs qui sont jeunes.
Ah bah ouais.
Peut-être
alors,
ils
les
connaissent
amis,
pas Charlie et Lulu.
Bonjour les petits. Alors, à l'époque de la télévision, il y avait un monsieur qui s'appelait Christophe de Chavannes. Et Christophe de Chavannes.
Tu parles un peu fort, désolé.
Eh oui, elle est sourde, elle est dure. Donc en fait, il y avait une émission qui s'appelait « C'est encore mieux l'après-midi », qui était émission présentée par Christophe de Chavannes. Et dans cette émission, il y avait un duo de mecs qui faisaient des sketchs, qui faisaient des conneries, qui s'appelaient Charlie et Lulu, qui après ont présenté un genre de top 50 sur M6.
Le Hit Machine.
Et il commençait tout le temps par « Je m'appelle Charlie, tu t'appelles Lulu. » Le samedi après-midi, dans un public en folie, bref. Donc Charlie et Lulu mangeaient dans mon resto, et un jour ils m'ont dit « On vient de démarrer une nouvelle émission, on a besoin de gens pour faire du casting, est-ce que ça te ferait rire ?»
Waouh. Mais comment ils te demandent ça?
Parce qu'on était potes, ils venaient manger dans mon resto tous les midis, ils étaient hyper drôles. Charlie est vraiment... Tu sais, Charlie, il est toujours dans la classe, hyper calme.
Il est très smart.
Lulu, c'est une torpille. Donc Lulu était particulièrement drôle. Et donc, j'ai démarré chez... vite fait, hein, tout de suite. J'ai été responsable de... recherchiste de casting pour Arthur et Stéphane Courby. Et je faisais les castings pour des émissions de caméras cachées. Et on devait trouver des gens. Et donc, je cherchais des gens pour le casting. Et puis après, ben, ça s'est enchaîné. Hein.
Mais
après,
c'est ouf, cette histoire. Ouais, parce qu'en fait, t'étais ouais, ton restaurant.
Oh, ben, j'ai fait mon restaurant. J'étais tranquille chez moi. J'ai fait une petite plage. J'ai fait un petit passage où j'étais dans la com, où j'avais monté une petite boîte de RP qui n'a pas duré longtemps. Parce qu'attaché de presse, pour moi, c'était pas un métier pour moi, en fait. J'avais l'impression de... C'était terrible. Je l'ai fait très peu, en fait. Mais je l'ai fait.
Qu'est-ce qui était terrible pour toi?
Bah parce que
fallait démarcher les journalistes,
fallait démarcher les trucs et tout. Je suis pas très douée pour ça, je crois. Bref, je sais déjà pas me vendre, alors vendre les autres, comme on te dit. Et après, je te dis, j'ai enchaîné. Donc j'ai fait du casting pour des émissions de caméras cachées. Très rapidement est arrivé un pilote d'émission qui s'appelait Allô Bonsoir, l'ancêtre d'Exclusif. Ça n'a été qu'un pilote. Et après, on a enchaîné sur Exclusif. Et Alexia Laroche-Joubert recrutait des journalistes et Stéphane Courby lui a dit « Bah écoute, Val, elle est vachement sympa, elle connaît plein de gens, elle est hyper drôle. Je t'explique l'accueil d'Alexia la première fois que Stéphane Courby lui a demandé de me recevoir. »
Alexia Laroche-Joubert, ouais, qui est une grande productrice de télé.
Qui est, je pense, vraiment une de mes meilleures amies. J'aime profondément Alexia. Hein. Mais notre premier contact, ça a été d'une violence. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était quand même un iceberg, la gonzesse. Hein. Donc, après, j'ai mis du temps à comprendre, mais elle le sait, hein, tout ça. Vous n'êtes pas en train de découvrir un truc, elle ne découvre pas ce que je pense d'elle. Hein. Mais je pense qu'elle n'avait tellement pas confiance en elle, et elle était elle aussi quelque part extrêmement timide. Donc du coup, cette façon d'être un peu sèche et d'être un peu dure, ça lui donnait une pseudo-assurance, ouais, alors que fondamentalement, c'est un bonbon, Alexia. Hein.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée, ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
C'est un truc que je pense aussi font beaucoup de femmes pour un peu se préserver, se prémunir. En plus, dans le milieu de la télé, qui est un milieu masculin.
Le milieu de la télé, c'est un milieu où, de toute façon, les femmes sont ou des très jolies femmes. Bonsoir, ce soir. Ou c'est dur. Ça, je t'explique, je l'ai vécu après. Mais du coup, journaliste sur Exclusif, Alexa, elle m'a regardée en disant « Mais t'as jamais fait journaliste, toi ?» C'est con que vous n'avez pas la caméra, parce que je fais très bien Alexa Laroche-Joubert. Et je lui dis « Bah ouais, non. » Et toi, t'as déjà été rédacteur? Non? Bah voilà. Il y a des débuts à tout dans la vie. Hein. Donc, et puis surtout, ce qui était drôle, c'est qu'elle m'a dit, ouais, et donc, qu'est-ce que tu pourrais me proposer, là, comme sujet un peu original? Et je lui fais, eh ben, ça tombe bien, parce que ma pote, elle reçoit Steven Seagal chez elle, et figure-toi qu'il vient d'être nommé moine Rinpoche. Et voilà, et je vais faire l'interview, et il va t'expliquer ce que c'est qu'être moine Rinpoche.
C'est alors, quoi? De quoi? C'est moine quoi?
C'est un, en fait, Steven Seagal.
Donc Steven Seagal qui est un immense acteur de films.
Alors, bon, qui fait la qualité, The Cook, etc. Bon, bah, c'est Steven Seagal, hein, les gars. Moi, c'est mon pote, je l'adore d'amour, hein, mais le gars a fait quand même des films.
Beaucoup de bagarres.
Beaucoup de bagarres. Énormément, ouais, énormément de GTA 3, énormément de. Bref, le gars est quand même septième Dan de tout, hein, je crois. Donc, et en fait, ma pote avait fait une fondation pour les enfants du Tibet et elle avait rencontré Steven, qui à l'époque était très tourné vers la religion tibétaine, la méditation, etc. Et il avait été faire plusieurs retraites dans des monastères au Tibet. Et dans sa dernière retraite, à la fin, il avait été intronisé moine Rinpoche. C'est genre, tu vois, c'est un diplôme, quoi. Ouais. Donc, c'est pour dire que, franchement, t'as bien médité. Bravo, mon frère, tu as bien médité, tu es moine Rinpoche. Donc, comme c'était un pote de ma pote, et qu'il était surtout dans son association, les Enfants du Tibet, et que je savais qu'il venait chez elle à Paris, je me suis totalement engagée en disant, mais attends, vas-y, le gars va me donner une interview exclusive, qu'est-ce que tu crois, vas-y. Et en fait, pas du tout, le gars, il n'était pas du tout au courant, ni ma pote, oui, ni personne, mais comme l'autre, elle me chauffait à base, eh ouais, et qu'est-ce qu'il va nous donner comme sujet original? Eh ben, Steven Seagal. Donc du coup, elle m'a dit, ah bah c'est super, bah je vais te donner un cadreur, un ingénieur du son, et puis tu vas me dire le jour. Bah ouais, je vais sortir, je vais appeler Steven et on va caler ça.
Je suis sortie, j'étais en... Comment tenir ? Bon, Valérie, maintenant, faut appeler ta copine et lui demander qu'un Steven Seagal fasse une journée d'interview.
Et là, tu fais, putain, mais qu'est-ce que t'es conne, ma pauvre, d'ouvrir ta gueule. Bref, donc j'ai quand même appelé ma pote, qui m'a dit, bon, bah viens à l'hôtel, on va parler avec lui, et puis tu vas lui expliquer ton truc. Et là, c'était très drôle, parce que je lui ai expliqué donc, tout ça dans un anglais extraordinaire que je maîtrise totalement. Et je lui ai dit, écoute, Steven, en fait, si t'acceptes pas cette interview, je pense que je serai virée. Il m'a dit, comment ça, virée? Je fais, ouais, virée, quoi, pas prise. Il m'a fait, ok, ben, on va faire l'interview. Donc, du coup, j'ai appelé Alexia et on a fait l'interview. Il nous a présenté, là, tu sais, ses statuettes de prière, son habit de prière. Le sujet est exceptionnel. Il nous a expliqué tout ça, c'était magnifique. Et donc,
putain,
du coup.
Steven Seagal, si vous n'avez pas Steven Seagal, c'est une sorte de Jean-Claude Van Damme avant l'heure.
En fait, Steven Seagal, il faut taper sur Google, les petits choux.
Oui, c'est ça.
Et vous allez voir, le meilleur pour moi, c'est quand même celui où il est cuisinier. Mais bon, cuisinier, où il fait. Ça s'appelle Piège en haute mer. Je vous conseille fortement ce film exceptionnel. Piège en haute mer. Il y a donc, tu sais, le mec. Tu le vois, il tue des gens avec deux doigts. Il fait « Frita !» Et les gars meurent. Et donc, t'as le méchant qui fait « Who's that guy ?» Et « Who are you ?» Et là, t'as Steven qui est avec son tablier de cuisinier, parce qu'il est cuisinier dans le film. Il se retourne et il fait « I'm just the cook. » Voilà, rien que pour ça, je suis fan à vie de Steven Seagal. Parce que là, on est sur un gars qui a tué des gens à main nue avec deux doigts. Et le gars se retourne en tablier de cuisine et fait « I'm just the cook. » Classe à Dallas.
Et surtout, les films en français étaient très mal doublés.
Mais très mal doublés, c'était
et
magnifique.
Fait exprès, sans doute.
C'était super. Donc, on adore. Hein. Moi, j'adore Steven. Hein. Donc, particulièrement son piège en haute mer. Donc voilà, donc j'ai fait cette petite interview. D'ailleurs, j'en ai fait deux. Après, il est revenu en France. J'ai refait une interview bien plus tard, parce qu'il venait présenter son album de country. Parce que Steven, après avoir été moine Rinpoche, a fait un album de country qui a eu un énorme succès international.
Quel parcours de vie, Steven Seagal.
Je te jure, magnifique. Et d'ailleurs, je me rappellerai toute ma vie de cette rencontre. On va à l'hôtel pour faire cette interview de country. Je te parle de ça, donc 3 ans plus tard, je sais plus. Et le gars, il a une montre. Mais je te jure, c'est une horloge suisse au poignet. Le dos se fait 15 kilos, tout en or et tout. Et je lui dis, mais c'est quoi cette montre, Steven? Vas-y, tu peux pas bouger avec cette montre. Il fait, attends, je t'explique. Voilà, là, tu vois, il y a tout dedans. Il y a une balise Argos, il y a un GPS, je suis repéré même sur la Lune. S'il m'arrive quoi que ce soit, si je suis perdu seul dans la jungle, les gars me retrouvent en 47 secondes. Et là, je regarde, je fais, ouais, mais t'es jamais tout seul dans la jungle. Donc du coup, tu pèses ta montre 3 kilos, paye ta misère pour juste un jour si t'es tout seul dans la jungle, ce qui n'arrivera jamais. Voilà, il faut savoir que Steven est venu chez moi. À l'époque, j'habitais quand même avec mes deux enfants et mon mec dans un 50 mètres carrés. On recevait des potes à dîner, dont un fan absolu de Steven Seagal, Julien Veil, si tu m'entends, la dédicace pour toi. Donc, on est chez moi. Mes gosses sont au lit. Okay. Mon fils a 7 ans, ma fille a 9 ans. Et ma pote m'appelle, elle me fait « Ah, il y a Steven qui est à Paris en passage express, il veut que tu viennes nous rejoindre. » Je fais « Bah non, je peux pas, je suis avec des potes, je vais pas planter mes potes. Désolé les gars, sorry. » Il faut savoir que Steven est parano, il ne va jamais chez les gens. Parce qu'il a toujours peur qu'il lui arrive un truc. Dans les restos, il est toujours dos au mur. On est sur quelqu'un qui a toujours des angoisses. Et donc, il se déplace jamais chez les gens. Et là, comme il voulait absolument me voir, parce que c'est vrai que je le faisais beaucoup rire, parce que moi, je me foutais tout le temps de sa gueule. Il décide de venir chez moi. Donc, débarque chez moi dans mon 50 mètres carrés. On est déjà 12 dans le salon. 4 nonnes tibétaines qui viennent en premier. Bonjour. D'abord, il y a les deux gardes du corps qui arrivent, qui font le tour de la porte, qui se mettent chacun à un angle du salon. Tant te dire que mon salon de 8 mètres carrés est très vite à changer de température. Plus derrière, il y a les nonnes, 4, qui arrivent avec les doses d'encens, là, qui foutent de l'encens partout dans mon salon. La photographe officielle, ma pote est Steven. Bonjour, bonjour. Et là, il va dans la chambre de mes gosses, il me fait... Donc, on s'embrasse, on parle 5 minutes. Là, mon pote, qui est fan de lui, pauvre, il était venu en scooter et il était arrivé trempé chez moi. Et je lui avais donc prêté des affaires sèches, le temps que ses affaires à lui soient sèches aussi. Et donc, il était avec un jogging à moi, Mickey Rose. et un sweat Peggy la cochonne. Ok. Le gars est fan. Quand je te dis est fan, imagine-toi bien la personne que t'aimes le plus au monde et tu es ridicule. Et le gars a vu Steven dans mon salon. Il a eu une espèce de petite transe comme ça où il était ridicule. Il s'est levé pour lui serrer la main. Steven l'a regardé comme as. Aïe. Bon, c'était un vent international. Et le gars me dit, où sont tes enfants? Et je lui dis, bah, ils sont dans leur chambre, ils font dodo. Ok, je vais les... I'm gonna bless them. Je vais les bénir. Et donc, il est rentré avec les meufs, là. Mon fils a ouvert un œil. Donc, il lui a mis la main sur la tête comme as. Il lui a fait une prière en mon truc, là. Mon fils, il était comme as. Ma fille, elle a fait, mais qu'est-ce que c'est? Là, laisse tomber, c'est Steven Seagal. Et là, ils se sont endormis les deux. Il me fait, voilà, plus rien ne peut t'arriver. Voilà. Et après, c'était très drôle. Mon mec, qui, quand, ça fait 20 ans que je suis avec lui. Quand tu connais mon mec, qui est le mec le plus détente et le plus cool de la Terre, il est arrivé, mais en friendly, tout à l'heure. Hey, hi, I'm Régis, ce compagnon Valérie. Et là, Steven l'a regardé, il fait... Donc, bon, t'as quand même l'autre qui fait 2m20 qui te regarde, même si mon mec fait 1m80, l'autre, il était quand même un peu ouais. impressionnant. Et il fait... Good boy. Ah, good. Il m'a regardé, il a fait le pouce levé comme ça, genre. Good boy. Il a genre validé, tu sais. C'était validé. T'as été validé. Voilà. Et donc, il est reparti. Après, il m'a fait I love you. Et tout le monde est reparti. Les gardes du corps, les nonnes, la photographe, ma pote et Steven. Il y a eu une espèce de silence dans la pièce. On a tous éclaté de rire parce qu'il y avait Julien avec le jogging rose qui a fait « Tu te rends compte que j'ai serré la main à mon idole avec un jogging et Piggy la cochonne et Mickaël, c'est vraiment n'importe quoi !» Voilà, ça sera l'anecdote la plus drôle de ma life. Voilà, voilà. Donc
putain,
après,
merci de l'avoir raconté.
Voilà, écoute. Et après, ce qui était drôle, c'est que donc, bah, après exclusif, j'ai fait exclusif donc, pendant bah, le temps que ça se fasse. Et très rapidement, Alexia est partie sur la Starac 1. Donc, elle m'a traîné avec elle sur la Starac 1.
Non, mais j'ai redécouvert que t'étais la nounou.
Mais bien sûr, j'étais mais pas que la nounou, mon pauvre. Oh là là, putain, ce que je faisais à la Starac.
Non, mais
secours.
À l'antenne.
Oui, oui, à l'antenne, cas. J'étais la nounou. Après, donc, elle m'a emmenée au château. C'était génial parce qu'à l'époque, ils avaient pas du tout refait les chambres et tout ça. Donc, ouais. C'était vraiment les chambres du château. C'était magnifique. C'était pas du tout un décor de télé-réalité comme dans les autres Starac. Là, on était dans. Il y avait encore, pour ceux qui ont revu les Starac 1, ouais, les armures
passées
ouais,
le
qui sont passées
là.
Pendant le confinement. Il y avait les armures en déco dans le ouais. château. On n'était pas du tout en décor de télé. C'était n'importe quoi. Et moi et Alexia, on partageait une chambre qui était magnifique, qui était dans un bâtiment désaffecté. Donc, tout le sous-sol, il y avait de l'eau, des rats. Le chat d'Alexia partait à la chasse aux rats. Et nous, on dormait dans une toute petite chambre avec un radiateur électrique. On était comme ça. Bon bref, on a quand même bien rigolé. J'ai enquillé avec le casting du Loft 2. Où là j'ai fait putain les gars, c'est chaud quand même. J'étais directrice de casting avec d'ailleurs la productrice de mon émission actuelle Les Plus Belles Vacances, Ottilie. Elle était directrice de casting d'un centre à Paris. Moi, j'étais directrice de casting de l'autre centre. Donc, c'était très drôle. On s'est retrouvés après plein de fois en télé.
Comment tu te retrouves directrice de casting?
Bah, parce que je suis avec Alexia, qu'elle sait qu'en fait, pour le coup, comme moi, j'aime beaucoup les gens. Je suis très curieuse de leur vie et j'aime bien parler avec les gens. J'arrive toujours, j'étais plutôt une bonne journaliste pour ça, parce que j'arrivais toujours, même les pires. Je te jure, j'en ai rencontré des traits et je ne citerai absolument aucun nom de gens qui n'avaient pas du tout envie de voir des gens de télé. Et j'arrivais avec ma bonhomie et mon petit côté bonhomme quand même. C'est pas trop gentil quand même. Donc, finalement, je les niquais. Donc, elle savait très bien que j'étais assez bonne en casting.
Ouais.
Bon, je suis retrouvée directrice de casting. Et après, j'ai dit, bon, c'est pas trop mon truc, le loft, là, je suis un peu en angoisse. Donc, elle m'a punie, elle m'a mis à la Call TV du matin.
Attends,
la Call TV du matin, tu sais, c'était des émissions où les gens, ils appelaient. Je vous donne un indice, il est rouge, il a un bonnet, machin. Tu te rappelles de ça?
Ouais.
Donc, je faisais les questions mystères, là. Et totalement par hasard, un soir, je suis à un dîner chez des potes et je rencontre un pote à moi qui me dit « Écoute, Mireille Dumas recherche des journalistes avec un profil un peu atypique. Je pense que tu devrais la rencontrer. » J'ai demandé à Angela, parce qu'Angela Laurent venait de chez Mireille Dumas, elle avait été journaliste chez Mireille Dumas. Et Angela me dit « Chérie, tu vas adorer, c'est super parce que vraiment, c'est la vie, tu rencontres les gens, ça va être génial. » Je fais « Ok ». Donc, je me suis présentée à Mireille Dumas, qui m'a regardée comme si j'étais vraiment un extraterrestre. C'est-à-dire, pour elle, je venais d'une autre télé. C'est-à-dire que je venais de tout ce qu'elle n'a jamais fait. Et en même temps, elle trouvait que j'avais un profil atypique. Donc, elle m'a dit, eh ben, welcome.
Alors, Mireille Dumas, qui était à l'époque...
Elle faisait on faisait vie privée, vie publique.
Des elle longues venait, émissions.
Voilà. Donc là, vie privée, vie publique. En plus, elle était... Je pense qu'elle m'a embauchée aussi parce qu'elle s'est dit que j'allais ramener aussi une autre partie de, tu vois, de personnalité qu'elle n'avait pas l'habitude de, peut-être d'appeler,
donc sur service public.
Exactement. Ouais, alors... Donc, je me suis fait 3 ans et demi de vie privée, vie publique. Et ça, c'était plutôt drôle, franchement. Mmh. J'ai fait des très belles émissions. Et un jour, j'étais tranquillement...
Parce que là, t'es toujours derrière la cam.
Mais bien... pas... Non, sur Exclusif, j'ai fait des plateaux. Sur Exclusif, avec Jonathan Lambert, Angélique Sansonetti, Jenny Godula. À l'époque, c'était très tendance de mettre les chroniqueurs à l'antenne, tu sais, en micro. Bonjour, je suis sur le tournage du film, de machin. C'est parti. Donc, on était souvent à l'antenne. Okay. Donc, dans Exclusif, je faisais de l'antenne. Avec Jonathan Lambert, on prenait des bons gros fous rires. On s'est fait des festivals de Cannes avec Jonathan Lambert et Angélique, mais à pleurer de rire. Angélique Sansonetti, qui était quand même après, qui est devenue la reine de la télé-réalité, qui a été responsable de la Starac, responsable de plein d'émissions, et de La Ferme, etc. Donc, et on a démarré ensemble journaliste, donc ça, c'était plutôt drôle. Non, c'était pas ma première expérience de télé, mais de... Enfin, de...
Oui. Face caméra.
Face caméra, on va dire. Hein. Et donc, chez Mireille Dumas, un jour, j'ai une amie avec qui je travaillais chez Arthur, qui s'appelle Marie Genet, et Sylvia Kahn, qui était à M6. Les deux m'ont appelé en me disant, écoute, voilà, on va lancer une émission de déco. De mémoire, t'adores la déco, t'adores chiner, t'adores bricoler. Est-ce que ça te tenterait de faire le pilote ?
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Ouais, grave. Donc, on a fait un pilote et on l'a montré à la chaîne. Thomas Valentin, il était en panique. Je te le dis tout de suite. D'abord parce que j'avais pas le physique d'une fille de télé.
Ouais.
J'étais petite et dodue, on va pas se mentir. Je tutoyais tout le monde, à commencer par les enfants, à qui je pinçais les joues. Bah alors, ma crapule, hein, qu'est-ce que c'est? Je vais te casser le bras, moi, tu vas voir. Bon, bref. Donc,
tu viens vraiment de me pincer les joues.
Je viens vraiment de pincer les joues. Je t'ai arraché la joue. Donc ça, c'était compliqué. Je parlais à la caméra, ce qui ne se fait pas en télé, mais moi, je parlais aux téléspectateurs. Ouais. Donc ça, c'était une angoisse pour... Ça n'existait pas, en fait. Hein. Donc moi, je parlais tout le temps. Alors toi, dans ton fauteuil, etc. Donc il devenait dingue. Parce que voilà, donc il a regardé le pilote, il était là. Elle est obligée de tutoyer tout le monde. Il était totalement panique, Thomas Valentin. Je me suis beaucoup foutu de lui avec ça à l'époque.
Mais c'est vrai qu'en télé, même si tu te connais... Parce qu'en plateau, tu connais les gens, etc. Ouais. La règle, c'est de vous voyez.
Ouais,
quoi.
Ouais, bien sûr. Bah, écoute, font ce qu'ils veulent. Moi, je tutoie tout le monde, c'est comme ça. On se connaît. La dernière fois, j'étais en radio avec Philippe Vandel. Le gars me dit, non, mais on se vous voit. Je dis, mais pardon, ça fait 25 ans qu'on se connaît. Tu vas pas, je vais te dire vous. Mais enfin, ça va pas bien, quoi. C'est quoi ces codes à la con? Bref. Toujours est-il que moi, je tutoyais tout le monde. Je parlais aux téléspectateurs. Je dis, ah, toi, sur ton canapé, t'as l'impression que c'est facile et blablabla. Bla, bla. Et en fait, bon, voilà. Bon, finalement, quand même, Bibiane Godefroy, Sylvia Kahn, tout le monde l'a convaincue en disant « Allez, ça va être sympa, elle est rigolote, elle est atypique. » Et donc, ils ont signé pour 5 émissions. Ça, c'était drôle.
Pourquoi tu dis ça avec des guillemets atypiques ?
Bah, parce qu'atypique, parce que petite et grosse, c'est pas du tout un physique de bimbo de la télé. Tu vois, je veux dire, à l'époque, en télévision, je pense que j'étais avec Marianne James et Laurence Boccolini. On était les trois grasses pour eux, tu vois. C'est-à-dire que... Quoi ? Des filles qui font plus que du 38 en télévision, c'est énorme. Bah oui, c'est énorme, ça c'est sûr. Donc, les questions des journalistes quand moi... Parce que là, maintenant, c'est vachement... On essaye de parler de body positive. Ouais. Et quand on te fait des vannes, on te traite de grossophobe et t'es un peu recadré. À l'époque, les gars, ils y allaient franco. Hein. Ouais. Alors Valérie Damido, parce que ça doit être bizarre de faire de la télé, vous avez plutôt un physique de radio ? Je l'ai eu, ça, je l'ai
putain.
Eu. Hein, puis, pour le coup, je l'ai eu de canard réputé. Hein. Donc, wow. Si tu veux, c'était...
Tu répondais quoi ?
Bah, je répondais, bah, ça veut dire quoi? Dis-le carrément que je suis grosse. Hein, parce que, à un moment donné, j'ai dit, mais tu sais, je suis pas grosse par passion, hein. Je bouffe pas comme une vache. Moi, j'ai une maladie qui s'appelle l'hypothyroïdie. Donc, je suis pas responsable de mon poids. Et, une fois que je le sais, bah, tu sais quoi, j'essaie de faire avec. Et puis, en fait, je t'emmerde. Voilà. Donc, voilà, je pense qu'effectivement, quand t'arrives dans ce milieu, si t'as pas un peu les nerfs en acier trempé et que tu veux faire carrière, prépare-toi quand même à en prendre plein ta gueule. J'étais pas non plus de la première jeunesse, j'avais 40 piges, j'étais effectivement dodu, j'avais pas, voilà, j'étais pas en bonsoir. Voilà, j'étais plutôt garçon manqué, je tutoyais tout le monde. Je pense que Thomas Valentin, il avait l'impression qu'il avait embauché Lino Ventura, si tu veux, donc... c'est vrai, vraiment, pour le coup, il était un peu, tu vois, bon.
Ouais.
Et puis, comme l'émission a cartonné après.
Mais c'est ce qui fait que, alors j'allais dire, c'est ce qui fait que t'as cartonné, en fait.
Moi, je pense que les gens, d'un seul coup, ils sont dit, oh, tu vois, enfin, une meuf qui nous parle.
Voilà.
Il s'est resté au début, il voulait pas qu'on le mette. Moi, à la fin de l'émission, à chaque fin de l'émission, je disais, hey, je vous embrasse chez vous, brah! Et je donnais un coup dans la caméra. Au début, il voulait pas qu'on le fasse. Je disais, bah, allez vous faire enculer. Moi, je le fais, voilà. Mm. Moi, j'aime bien parler aux gens chez eux. Putain, ils nous regardent, les gars. À un moment donné, on peut pas faire comme s'ils existaient pas. Donc, on l'a fait. L'émission, elle a cartonné. Elle a cartonné aussi parce que moi, je mettais tout le monde à l'antenne. Parce qu'au début, il voulait pas trop que tout le monde soit à l'antenne. J'ai dit, mais les amis, il y a pas que moi qui pète des murs et qui repeint des doses. Mm. Tout le monde le fait. Donc, du coup, quand on faisait trop de coulisses, ils étaient un peu comme ça. Et puis, finalement, comme les gens, ils adorent ce qui se passe en coulisses. Bah, l'émission, elle a tourné tout seul. Donc, on a passé 10 ans à bien se marrer, à maroufler, et c'était très drôle. Donc, voilà. Après, je suis pas partie d'M6 en me disant, ah, youpi, je suis trop contente de quitter. J'étais très, très malheureuse de partir.
Ouais.
Parce que j'avais fait ma série Victoire Bonneau, que j'ai adorée. Pareil qu'ils ont arrêté, j'ai jamais compris pourquoi. Bon, ça, c'est un autre débat. Du coup, j'y suis partie parce que j'étais malheureuse, parce que je trouvais que j'étais pas bien traitée, que l'émission, il la découpait, il voulait plus faire de prime, il découpait ce qu'on tournait en 8 jours, il le découpait en épisodes. Ce qui veut dire que tu t'attendais 6 semaines avant d'avoir le résultat final. C'est un peu long pour avoir une découverte, quand même. Je trouvais que c'était massacré, l'émission. Je trouvais que c'était dommage de plus faire de Victoire Bonneau. Je trouvais que c'était dommage de plus faire davantage d'émissions de déco, parce que moi, ce que j'aimais dans cette émission, c'était qu'on sauvait vraiment des gens, on aidait vraiment des gens, et ça, c'était génial. Mais j'étais trop malheureuse. Donc, quand NRJ 12 m'a dit « on va refaire des émissions, on va refaire des programmes et on va quitter un peu la télé-réalité », et qu'ils nous ont proposé de faire de la déco, etc., j'ai fait « allez, bah, je me casse ». Comme moi, je sais pas trop faire monter les enchères, je vais partir. Je vais partir. Regarde-moi, je vais partir. Je sais pas trop le faire, moi, ça. Tu sais, ça, c'est très télé, ça, de faire genre monter les enchères. Tu dis que machin t'as vu et que truc t'as vu. La personne qui est dans cette pièce, qui me connaît depuis M6, peut te le dire. Je suis nulle, mais nulle en tout ce qui est, les rapports humains, genre,
ah oui.
Tu vois, lécher des pommes, faire de la diplomatie, ouais. Les réseaux, les trucs. Je suis une blaire. Je ne sais pas le faire. Moi, je vais voir les gens que j'aime. J'aime pas lécher les culs quand il faut lécher des culs pour avoir des trucs. Je ne sais pas le faire. Moi, je dis toujours ce que je pense. Parfois trop fort, parfois mal. Mais en tout cas, avec moi, t'as pas de surprise. Donc, du coup, faire la faillotte, lécher des culs, machin, tout ça, faire du chantage ou de moyen, je sais pas le faire. Donc, j'étais malheureuse. J'ai dit, les gars, je suis malheureuse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais vraiment comme dans un couple. Et en face de moi, j'ai eu un mec qu'on avait rien à foutre, qui avait déjà fait publier les papiers de divorce, qui m'a dit, ouais, bah, c'est pas grave. Ouais. Voilà, allez. Et ben, j'ai fait salut, alors. Et ben, ouais, salut. Mais je pense que... j'aurais pu rester, mais on m'a proposé de rester aux mêmes conditions que ce que je vivais, c'est-à-dire une émission découpée, voilà, ouais. Donc j'ai fait non, et je me suis barrée sur NRJ 12.
Ça a été dur pour toi d'encaisser de te barrer comme ça,
ouais.
Après 10 piges?
Ouais, ça a été dur parce que j'aimais profondément l'émission, j'aimais profondément mon équipe, même si j'en ai récupéré une partie sur l'émission que j'ai faite sur NRJ 12, j'avais vraiment l'impression qu'on avait une émission qui aidait les gens, qui divertissait, mais qui aidait les gens. Et ça, c'était génial pour moi. Donc, j'étais profondément... Ça a été un tire-larme pour moi. Après, j'ai fait une expérience sur NRJ 12. On a fait des émissions de déco, des émissions Le Labo de Damido, où j'ai retrouvé Christophe de Chavannes. Voilà. Qui, alors, comme on dit en télé, quand une émission, elle est mal programmée ou qu'elle fonctionne pas, on dit « l'émission n'a pas trouvé son public ». Parce que tout en télévision, il faut pas croire comme ça. Les gens pensent que la télé, c'est hyper facile et que t'as juste à montrer ta gueule et machin. Non, non, les gars, c'est pas ça, la télé. La télé, ils font des études toutes les 5 minutes. Je ne sais pas à qui ils posent des questions, hein. Mais vraisemblablement pas aux gens qui regardent la télé. Bon, bref. Donc, ils font des études. Donc, alors, l'émission, elle doit être diffusée de 17h02 à 17h48. Sinon, si elle est diffusée de 17h48 à 19h02, c'est plus... Tu sais, mais des études, mais des trucs. C'est fou. Donc, les émissions n'ont pas fonctionné.
En gros, ce que tu es en train de dire, c'est très marketé. Et c'est très loin de...
C'est très loin.
De qui tu es.
C'est-à-dire que si un jour, si aujourd'hui, en 2020... on devait refaire Déco, je ne serais jamais à l'antenne.
Parce que la télé, c'était quand même en 2006, même 2006.
Donc il y a 14 ans, je peux te dire que M6, qui était vraiment la chaîne sur laquelle on pouvait tout essayer, et qui est encore une chaîne où on essaye encore des trucs, mais ça serait aujourd'hui. Mais jamais tu me vois à l'antenne aujourd'hui dans Déco. Jamais les gens, la télé serait l'antenne dans une émission comme ça où on n'avait pas fait d'études, on n'avait pas fait de ci, on n'avait pas fait de là. Donc moi, pendant le confinement, j'ai vu les préoccupations des gens. C'était vraiment, d'un seul coup, ils se sont rendus compte. La Déco est revenue en force, tu vois. Ouais. Et j'aurais adoré, moi, faire des lives comme Cyril Lignac, mais avec des tutos Déco. Je me suis régalée, je l'ai fait sur ma chaîne YouTube. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Donc j'ai quitté l'émission vraiment triste. Après, si tu veux, j'ai fait un petit passage éclair sur NRJ 12. Où sincèrement, jusqu'à la fin de mes jours, ça restera un souvenir avec Alexia, qui était ma productrice, avec Christophe Dechavanne et Alexia. Ça restera, en tout cas pour Alexia et moi, un moment où on aura vraiment, et je ne ferai aucun commentaire, on s'est bien fondu la gueule. On est resté 3 mois, les gars, mais on a rigolé. Et j'ai dit que je me cassais. Et au moment où j'ai dit que je me cassais, TF1 m'a appelé pour faire donc j'ai fait danser avec les stars comme danse sur un parquet avec des talons des mambos et on m'a dit ouais c'est
comment
ça.
Comment tu t'es retrouvé à faire danser avec les stars?
Bah, ils m'ont appelé.
Ils t'ont appelé?
Ouais.
Ils t'ont dit viens danser?
Ouais, viens. Et j'ai dit mais c'est à dire parce que moi ma mère elle adorait l'émission.
Ouais.
Moi, je regardais pas trop. J'ai pas une passion pour la danse de salon, force est de reconnaître. Et ma mère, elle adorait l'émission. Je suis tellement triste qu'elle était décédée quand j'ai fait l'émission, parce que alors, je t'explique, je pense qu'elle aurait claqué son PEL en texto pour que je sois en finale. Mais du coup, je me suis dit, mais ok, tu sais, on te fait faire un petit test. Ouais. Tu passes 2 heures avec un danseur et on voit un petit peu tes capacités. Putain, j'en ai chié. Moi, il faut savoir que c'est mal, c'est pas bien, c'est le diable, mais je fume. Donc, le sport, comment te dire, très rapidement, j'étais essoufflée comme un épagneul breton qui aurait fait 8 jours de chasse. Et puis, j'ai attaqué l'aventure. Et comme dans tout ce que je fais, moi, je me donne à donf. Donc, allez, vas-y, 5 heures de danse par jour, puis 6 heures, puis machin. J'étais épuisée. Mais c'était génial. Si demain, on me demande de le refaire, je le refais. C'était super. En plus, franchement, l'année où j'y étais, c'était hyper cool. Il y avait mon pote Olivier Mine, il y avait Artus, il y avait Sylvie Tellier. C'est vraiment des gens avec qui, tu vois, je suis hyper pote avec Olivier Mine, je suis hyper pote avec Artus, je suis hyper pote avec Sylvie Tellier. Franchement, c'est des gens géniaux. Et donc, on s'est régalé. Vraiment, on a passé une saison de rêve. Je suis partie au Prime 7, ce qui est totalement honorable. Et puis, voilà, quoi. Après, ça s'est enchaîné. On a fait... les Français ont du génie.
Ouais.
Ça, j'aurais bien aimé qu'on continue cette émission parce que j'adorais cette émission. Mais bon, ça, c'est encore un des mystères de la télé. Et après, j'ai fait mon plus beau Noël et mes plus belles vacances.
Que tu fais depuis 2 ans, trois ans.
Mon plus beau Noël, ça sera la 4e saison.
Ouais.
Et les plus belles vacances, c'est la 3e saison. Voilà.
Ok, donc t'es...
Ah, et je fais les voix des chats.
Ah, oui.
La vie secrète des chats. J'adore cette émission. Moi, je suis un peu une cinglée avec les animaux, faut le savoir.
Ouais.
J'ai un chien qui s'appelle Monsieur, une chatte qui s'appelle Micheline.
Ils sont sur ton Instagram.
Ils sont sur mon Instagram.
Très régulièrement.
Ça, je t'explique. Ce matin, tiens, j'ai sauvé une souris de la mort.
J'ai vu ce matin.
Non, mais s'il te plaît, quoi. Tu sais que c'est des assassins, les chats. C'est pas que des branleurs.
Ah,
c'est
oui.
Vraiment des assassins. Donc, elle tue 3-4 souris par semaine. Je les trouve mortes dans les escaliers, ça me fend le cœur. J'ai l'impression que Ratatouille est mort à chaque fois. Donc là, ce matin, j'ai vu Ratatouille fritiller dans le couloir. J'ai fait « Arrête, Micheline !» Donc elle s'est arrêtée, elle m'a regardé avec un mépris.
Ah ouais.
Vraiment, tu sais, la tête de saloperie de chat, là.
Chats,
genre, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je fais mon métier. Ok, donc elle s'est barrée, j'ai attrapé la petite souris, on a été la mettre dans le parc plus loin. Elle était trop contente, la petite souris. Et je suis revenue, elle m'a méprisée. Mais tu sais, elle m'a regardé mes gens. Micheline, elle m'a regardé mes gens. Pauvre sotte. Idiote. Tu sais, mais vraiment, je l'entends me parler comme ça. Imbécile. Voilà. Et moi, je lui dis, eh ben tiens, j'ai sauvé la souris. Je suis sûre que je vais rentrer à la maison, là. Elle en aura tué une. Ouais, j'ai une maison et j'ai des souris dans la maison. Mais moi, ça me dérange pas, j'ai pas peur des souris.
Bah oui.
C'est mignon, les souris, bah, quand même. Tu peux pas tuer une souris.
Bah après, ça dépend s'il y en a beaucoup.
Oui, c'est autre chose. Mais bon, ça, même si, je sais pas, j'aime.
Oui, je comprends.
Oh, c'est trop mignon. Bah oui,
c'est Ratatouille, ça nous a niqué
mais
la tête.
Mais oui,
pense.
C'est trop mignon. Non, je peux pas tuer les souris.
Ok.
Déjà, chez moi, mon fils mange plus de viande. Ma fille mange plus de viande. Moi, je mange de la viande peut-être deux fois par an. On a du mal avec les animaux morts, les animaux de cirque, ouais. La maltraitance animale. Alors, la souris. Déjà, quand je la ramasse morte parce que cette salope de Micheline a joué avec, ça me fend le cœur.
Ouais.
Alors, tuer une souris, hein, jamais. Une araignée, je m'en fous, tu vois, par exemple.
Ah ouais ?
Une araignée, je peux l'éclater en deux minutes.
Mais pourquoi faire la différence ?
Parce que ça pique. La souris, elle ne te pique pas. La souris, elle se barre, elle n'a rien à foutre. Voilà. Un moustique, par exemple. Tu n'as pas épargné un moustique. Tu l'éclates, le moustique. Eh ben, l'araignée, c'est pareil. Voilà.
C'est marrant, ce truc de faire, tu vois.
Mais ça te pique, une araignée!
Mais c'est parce que c'est un peu, c'est ça qu'ils font, tu vois.
Non, non.
Les araignées.
Oui, ben non. Elles viennent te piquer. C'est des salopes, les araignées. Des fois, elles viennent te piquer. T'as rien demandé.
Tu vas voir le comité de défense.
Ouais, bah, le comité de défense des araignées. Vous avez qu'à dire à vos copines d'arrêter de piquer les gens. Voilà. Merde.
Bon, t'as lancé ta chaîne YouTube aussi dernièrement.
J'ai lancé ma chaîne YouTube au début de l'année. On est très contents. On adore ce qu'on fait. J'ai récupéré mon complice de toujours, Phil.
Ouais.
Qui est mazo, hein. Il m'a supporté 10 ans dans des camps déco. Faut croire qu'il est, voilà. Enfin, en même temps, tu sais, moi, je suis très fidèle, hein. Aurélia, que tu as vu là tout à l'heure, qui est la maquilleuse, ouais, sur Les Plus Belles Vacances. C'est, non seulement c'est mon amie, mais on se connaît depuis Mireille Dumas. Elle était maquilleuse chez Mireille Dumas. On déconnait ensemble dans les loges. Quand je suis partie sur déco, je l'ai traînée avec moi. Je dis, tiens, tu vas me révéler la façade. Je suis assez fidèle en amitié et dans les équipes.
Ouais.
Donc, c'est vrai que, voilà, on est...
Mais alors, c'est marrant, tu vois, parce que ce que tu me racontais sur un peu ce que t'as fait dans la télé, c'est-à-dire prendre le truc et le retourner, pour moi, c'est les codes d'Internet de base, quoi. Tu vois,
c'est vrai. Mais en fait, très longtemps, j'avais pas le temps de faire Internet. Ouais. Clairement, j'avais un planning de ministre.
Tu faisais la télé, quoi.
Ouais, mais même, j'avais pas le temps. Des cons, on tournait tout le temps,
ouais,
même le week-end. Donc, j'avais pas de vie, vraiment. Hein. Après, Danser avec les stars, oui, bon, voilà. Et après, en fait, à force de demander à TF1 une émission de déco et d'avoir toujours la même réponse, genre non, je vais faire ma chaîne YouTube, au moins je me ferai pas chier. Donc j'ai été sur YouTube, ils sont tellement cool, franchement,
oui,
parce que on a eu un partenariat avec eux tout de suite. On va dans les studios YouTube, on tourne avec eux, c'est franchement sympa, vraiment, pour le coup. On a une vraie liberté de ton.
Tu fais
ce que je veux.
Oui.
Et on fait des tutos de bricolage, de déco. Je fais des rencontres avec des artisans. Là, d'ailleurs, on va pas tarder à tourner les tutos de la rentrée. Et puis surtout, à terme, on voudrait aller chez les gens. C'est-à-dire,
yes,
refaire une pièce, tu vois, vraiment ce que je faisais dans déco. Ouais. Et faire gagner, on fait gagner des perceuses, on fait gagner des visseuses. Ah ouais, j'ai la chance d'avoir un partenaire en or. Merci Black & Decker, hein, les gars, parce que franchement, ils sont tellement cool. Et franchement, on se marre. Vraiment, on fait ce qu'on aime, en fait. On apprend aux gens. J'ai des invités. J'ai fait venir plein de youtubeurs. J'ai fait venir l'Hollywood. J'ai fait venir Amy Alter. Alors, Amy Alter, c'est la passion de ma fille. Donc, elle, c'est une chouette meuf. Audrey Pirot, mais si tu la connaissais d'avant, Audrey,
ouais,
que j'aime d'amour. On a fait venir Guillaume Play. On a fait venir, bon, ma pote Mela Bédia. On fait venir vraiment beaucoup d'invités. J'ai fait venir Tristan Lopin parce que c'est ma passion. Tristan,
bah, oui,
c'est vraiment, alors là, c'est ma passion dans la vie, Tristan.
Meilleur mec.
Meilleur mec de la Terre. Donc, voilà, on va refaire venir des invités. Et on aime bien, hein? Ah, ma marraine. Bah oui, la marraine de la chaîne, c'est Inès Reg. Parce que comme elle était, je lui ai fait une surprise et j'ai appris qu'elle était fan de déco. Donc je lui ai fait une surprise sur une émission de Guillaume Play. Elle en a chialé. Elle a dit que c'était le plus beau jour de sa vie. Donc du coup, j'ai dit, bah tu vas être la marraine de ma chaîne. Donc elle a fait le premier tuto, c'est Inès qui le fait avec moi. On a fait des moulures et des paillettes.
Alors Inès Reg, si vous l'avez pas, c'est.
Ah, Inès Reg, c'est les moulures et les paillettes. Kevin, les comptes sont pas bons, Kevin. Bah, donc.
Qui a 2 millions de followers maintenant.
Oh, mais
juste sur cette vidéo.
Et moi, j'ai vu le spectacle. Le spectacle,
son spectacle
est
génial.
Dingue.
Ouais.
Son mec en première partie est très drôle aussi. Ouais. Kevin DeBone.
Qui est vraiment Kevin.
Qui est vraiment drôle.
Qui est vraiment, c'est le vrai Kevin, quoi.
C'est le vrai Kevin DeBone.
Si vous ne le saviez pas.
Ah, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, et puis là je pense qu'on va partir sur des tutos, on va alterner tutos de bricolage, tutos de déco. Moi je vais aller à la rencontre des stars et de leurs animaux.
Ok.
Donc ça me toujours cette passion des animaux avec
sur
monsieur.
Ta chaîne YouTube toujours.
Ouais, okay. Je ferai des vlogs, tu vois. Flic.
Ah, okay.
Et là je suis partie dans le monde magnifique de Twitch, c'est-à-dire, je t'explique. Il faut savoir que sur Twitter, il y a une communauté de gamers qui m'envoient tout le temps les résultats, tu sais, sur Doom.
Ouais.
Il y a un truc spécial, Valérie Doumido. Tu sais, voilà. Donc,
raconte-moi, je connaissais pas, mais ok.
Je ne connaissais pas non plus Doom. Enfin, je connais
Doom,
le jeu, je sais ce que c'est, mais il y a un trophée, le trophée, genre le boss de ta mère qui tue, le plus gros boss, c'est Dami Doom, Valérie Dami Doom. Donc à chaque fois qu'un gamer a ce trophée, il me l'envoie sur Twitter. Et comme moi, j'ai toujours dit que j'étais une gameuse, hein, moi, bien avant que vous parliez, j'adore jouer aux jeux vidéo. Moi, c'est-à-dire que j'étais en passion de Zelda, en passion de tellement de jeux vidéo. Moi, les premières consoles de jeux Sega, Nintendo, tout
oui.
Ça, passion absolue.
Vous étiez pas né là, les mecs qui étaient
sur
Twitch.
Vous étiez pas né, vous mouchiez même pas vos fesses. Hein, donc moi, j'étais une gameuse de base. Quand mon fils, pour le coup, qui est un véritable gamer, qui lui fait des jeux à plus... Alors, on a de tout avec Norman, parce qu'on est sur Red Red Redemption, et on est sur du jeu de chevalier, et on est sur du Splinter Cell. On est multicarte avec Norman.
Okay.
Mais quand il a commencé à jouer à GTA 3, je lui mettais des races dans l'émission. Bon, j'adore jouer. Donc, évidemment, en plus... Souvent dans déco, je faisais des chants pour les mômes qui adorent le gaming et les parents disaient oui, mais ils passent des heures à jouer aux jeux vidéo. Et moi, j'expliquais que mon fils a appris à lire avec la console parce que il avait une putain de Game Boy et qu'il comprenait. Et puis moi, je lui avais acheté une Sega. Il avait un jeu de Merlin l'Enchanteur avec Mickey.
Ah,
et
il était
et
génial,
comme ça. Il ne voulait pas, tu te rappelles de ce jeu ?
Bien sûr.
Et comme il ne voulait pas tout le temps demander à sa sœur ce que disait Merlin parce que c'était sous-titré. Il a appris à lire comme ça, je t'explique. Donc moi, je dis aux parents, oui, bien sûr que jouer 10 heures par jour, c'est pas une solution, oui. Etc. Mais les jeux vidéo, c'est quand même, je sais pas moi qui vais dire que c'est mal, j'adore ça. Et donc sur Twitter, d'un seul coup, j'ai découvert le monde merveilleux de Animal Crossing. Mais je n'avais pas de console.
Oh là là.
Et j'ai reçu une console qu'on m'a offert, merci
plus,
la vie.
Il y a moyen de maroufler dans Animal Crossing. Hein.
Et comment te dire que là, on a fait une vidéo qui sera sur YouTube bientôt, où j'ai des potes qui sont sur Twitch et qui sont sur Animal Crossing, sont venus chez moi et je leur ai donné des conseils de relooking déco de leur maison. Parce que les gars, on va pas se mentir, il y a un travail à faire en décoration sur Animal
c'est
Crossing.
C'est énorme.
Il y a quand même pas grand-chose en vente dans les magasins, les gars. Faut mettre du dos. Donc j'ai décidé d'être décoratrice internationale officielle d'Animal Crossing. Donc là, on est en train de faire des vidéos, les gars. Je vous dis pas. Je lui ai fait vendre toutes ces merdes qu'il avait achetées. Un goût de chiotte. Il m'avait mis des briques rouges, des trucs. Ouais, laisse tomber. Donc je t'ai tout refait, là. Mon pauvre Chiquito, là. Bon, bref. Et comme j'ai beaucoup de potes, quand même, qui sont dans le e-sport et dans le gaming, etc. Et que j'adore. Donc ils sont venus chez moi. La vidéo sera prochainement sur ma chaîne et okay. Je pense qu'il y a moyen de se marrer. Donc je vais essayer de maroufler chez les autres dans Animal Crossing.
Ouais.
Voilà, et surtout le dernier défi de ma vie, c'est à la rentrée, c'est d'être sur les planches, hein, comme on dit pour les vieux, au théâtre pour les plus jeunes, cet endroit qui est comme au cinéma mais où on voit les gens en vrai, pour le coup
avec ton fiston,
avec mon fils qui n'est pas mon fils dans la pièce, mais je suis ravie qu'il soit là,
ouais.
Et surtout il rappe dans la pièce parce que son métier c'est quand même comédien mais rappeur. Et mais pour le coup il rappe dans la pièce, donc je suis ravie parce qu'il a écrit des textes. C'est une tuerie. Et puis surtout, la pièce est très drôle. Moi, je l'ai totalement réécrite. On a totalement remouvé le truc. Et c'est Jean-Luc Moreau qui met en scène. Et je suis tellement contente que, voilà, on va bien se fendre la gueule.
T'as pas dit le titre.
Ça s'appelle Gwendoline.
Voilà.
Un prénom très actuel, hein, on peut le dire. Je m'appelle Gwen. Et voilà.
Et puis t'as ton bouquin. Attends, tu travailles avec tes enfants.
J'adore mon. C'est,
oui, c'est
mon
ton
agent,
RP,
t'as vu.
Il est dans la pièce là.
Donc j'ai cette pièce qui normalement se jouera à Paris les 15 premiers jours de septembre et ensuite on part dans toute la France en tournée dans toute la France. et surtout j'ai une bande dessinée que j'écris avec ma fille parce qu'on aime bien travailler en famille, donc toujours ce besoin d'être en osmose. Donc ma fille elle est illustratrice. On fait une BD, ça va s'appeler C'était mieux avant. Ça sortira, je pense, en mars 2021, parce que à cause de cette petite maladie de confinement, tout est décalé. Et c'est une BD sur mon enfance, donc sur des trucs que vous n'avez pas connus. Les cabines téléphoniques, les blues à l'école, tout un tas de choses incroyables. Les booms, on se roule des pelles, des trucs de dingue.
Ça existe toujours, ça.
Ouais, moyen. Les booms, enfin, je sais pas.
Ça s'appelle plus des booms, mais...
Il y a
toujours des soirées où ça se roule des pelles.
Ouais, mais pas comme nous.
Ah ouais?
Ils sont beaucoup plus... Bref.
Je sais pas, moi j'ai une fille de 13 ans, elle va dans des soirées où elle se roule des pelles, hein, je pense.
Ouais, mais c'est des soirées, c'est pas des booms d'après-midi, il y en a plus.
Ah, c'est un peu plus tôt.
Ouais, c'est...
Tu sais, c'est entre 7 et 10 ans, quoi. C'est, ouais, tout, c'est va, tout s'accélère, tu
tout
sais,
s'accélère,
dans cette société, là, vraiment.
Merde. Donc voilà, donc j'ai quand même pas mal de projets pour la rentrée.
On fait tellement un podcast de boomer, je te jure.
Mais vraiment, ça va, boomer? Ouais, ça, c'était mieux avant, hein. Bah moi je me rappelle le général de Gaulle, hein, comme disait de Gaulle, c'est le truc horrible. Donc non pour le coup voilà, la rentrée c'est la pièce, la BD et puis
puis là t'es sur TF1 pendant l'été.
Et puis là je suis sur TF1 pendant l'été et puis je serai sur TF1. C'est moi je suis la dame de Noël,
ouais.
Et la dame des vacances. Mm. Après je suis libre de faire ce que je veux. Voilà.
Et tu fais ta chaîne YouTube.
Donc, je fais ma chaîne YouTube.
Je vais mettre tous les liens parce que les gens
vont pouvoir. Oh, mettez tous les liens, les gars. Abonnez-vous.
Voilà.
Alors j'adore parce que au début quand j'ai reçu mes potes qui sont YouTubeurs,
ils savent faire.
Ils étaient là, abonnez-vous, lâchez des coms, mettez des pouces. Moi j'étais là, putain les gars, on est dans le game d'internet.
Ah bah. Comment tu crois que ça marche?
Moi je sais pas comment.
Si
ça
tu
marche,
demandes
moi,
pas,
tu sais.
Ils vont pas faire, tu vois.
Abonnez-vous, lâchez vos coms.
Non mais t'as été la première à parler aux gens dans la
bien
caméra,
sûr,
à la
évidemment.
Télé, tu vois.
C'est pour ça que j'aime bien YouTube pour ça parce que il y a un vrai. Moi j'adore les commentaires, moi je les lis tous, je like quand je peux, même si on est à la boue, on lit et tout machin. Et franchement, j'adore ça. J'aime la proximité avec les gens. C'est un peu ce qui manque sur les émissions que je fais sur TF1, c'est que je suis pas avec les gens.
Ouais.
Et ça me fait chier. Mm. Parce que moi j'aime être sur le terrain. Je suis pas du tout une fille de ni de prompteur ni de plateau. Moi je suis plus une fille de terrain. Et c'est le truc qui me manque le plus. C'est pour ça que je rêverais de refaire une émission de déco ou de terrain ou d'animaux ou j'en sais rien. Laissez-moi sortir. Donc
mais t'as dû adorer de cette là ce qui s'est passé pendant le confinement avec ce truc très où la télé a repris les codes d'internet.
Mais c'était génial.
Et revenir
c'est pour ça que j'ai regretté de pas faire une émission
pas être à l'antenne,
parce que j'aurais rêvé faire des tutos déco. Je te dis façon Cyril qui faisait la cuisine.
Ouais.
Moi j'aurais adoré faire ça avec des tutos déco. Je l'ai fait en live pour des tas d'émissions de radio, mais pas pour ma chaîne. Écoute, ça sera pour le prochain confinement, pour la deuxième vague. non, je déconne. J'espère qu'il y aura jamais de deuxième vague. Non, franchement, pour le coup, ça a mis une petite claque à la télé et c'est très bien. Je trouve que c'est super. Voilà. Moi, j'ai regardé plein de séries pendant le confinement.
T'as regardé quoi?
J'ai bingé comme une
pute. faut me dire.
J'ai regardé plein de trucs. Je peux même pas te dire tellement j'en ai regardé des séries. Moi, je suis très série Netflix.
Bah oui.
Bon, là, je viens de me faire la 4e saison de 13 Reasons Why.
Ouais.
Je suis un peu triste de savoir que c'est la dernière. Ce que j'aime bien, c'est ces gosses.
Ouais.
J'ai regardé Elite. J'adore Elite.
Ah oui, donc tu regardes les séries d'ados, quoi.
J'adore les séries d'ados.
Okay.
Tu sais, c'est hyper intéressant. Moi, j'aime beaucoup les... C'est pour ça que j'ai adoré faire Victoire Bonneau et j'ai adoré faire des scénarios sur les ados. Je trouve que c'est la période de la vie où c'est la plus compliquée. Tout est hyper compliqué, hyper dur, hyper... tu prends tout à cœur et c'est la période la meilleure de la vie parce que c'est là où tu te fais les meilleurs souvenirs. Mais en même temps, t'en chies tellement. Donc j'adore tous les trucs d'ados. Et je trouve que les séries espagnoles... Elite, c'est vraiment une série. Alors oui, c'est chez les bobos un peu riches, etc. Mais il y a quand même plein de problèmes d'ados qui sont vraiment bien faits. 13 Reasons Why, j'adore parce que c'est vraiment des vrais problèmes de... Tu vois, que t'as au collège, le harcèlement, la différence. C'est vachement bien traité. L'homosexualité, le harcèlement scolaire, les geeks et tout ça. Je trouve que c'est super bien traité. Ça peut aider des ados. Je trouve que c'est... Franchement, c'est chambé.
Sex Education, t'as vu ou quoi?
Bien sûr. J'ai vu Sex Education, tu penses bien.
Meilleure série.
Je te rappelle que mes enfants vivent encore chez moi, même s'ils ont 25 ans.
Oui,
et voilà, après j'ai regardé bien évidemment les classiques, la Casa des Papel et tout ça, après c'est différent. Mais j'aime bien les séries sur les ados. Pour les ados, faites par des ados presque, limite. Tu vois.
Bof. Mais...
Putain, mais je rigole, mais tu vois ce que je veux dire. Je trouve que c'est une période de la vie qui est hyper intéressante,
ouais,
cinématographiquement, littérairement, etc. Littérairement n'existe pas. Pour le coup, je trouve que c'est une période de la vie tellement angoissante et tellement géniale en même temps. C'est quand même un ascenseur émotionnel permanent, l'adolescence. Et souvent, moi, c'est dans déco, à chaque fois que les enfants, les ados me demandaient de la déco, autant te dire que les parents n'avaient pas leur mot à dire. Et souvent, je disais aux parents, mais attends, t'es né vieux, toi? Enfin, je veux dire, quand t'avais 13 ans, t'avais pas des rêves. T'avais pas envie que tes parents te foutent la paix et que tu puisses mettre les posters de qui tu veux dans ta chambre.
Non, c'est clair.
Oui, d'accord, mais bah voilà. Bah, c'est là pareil. Voilà. Les parents, souvent, pourquoi c'est la merde avec leurs gosses? Parce qu'ils oublient les ados qu'ils ont été. Ils oublient. Mmh. Vraiment, il y a un truc de. Mais les gars, vous avez pris de la drogue ou quoi? C'est-à-dire que tu peux pas oublier toute cette période de ta vie où t'as été en conflit avec tes parents, avec toi-même, avec tes potes, c'est dur, c'est l'enfer, et en même temps c'est génial et tu découvres tellement de trucs, mais n'oublie pas cette période de ta vie, c'est la période qui t'a formé presque, donc c'est pour ça qu'ils s'engueulent avec leur gosse. Moi je me suis pas engueulée avec les miens, ils ont fait des crises d'adolescence light, finalement c'était pas besoin de les faire,
ouais.
Mais parce que moi j'étais... ultra ouverte à discuter de tout, que ça soit de sexualité, de drogue, de fête, de, tu vois, de tout. Parce que pour le coup, je pense que c'est ça le rôle des parents aussi. Mmh. Le rôle des parents, c'est pas que de contrôler le carnet scolaire et de dire, dis donc, Kevin, t'as pas une bonne moyenne en maths cette semaine, là. Tu vois, parce que ça, c'est à mourir. On s'en branle, en fait, de ça. Moi, je pense que les parents, ils oublient que le but principal des parents, c'est d'accompagner leurs gosses vers bah, l'indépendance et surtout essayer de les former à la vie, puisque le monde dehors n'est pas rose.
Non.
Et que c'est un peu la merde et que franchement, je n'aimerais pas être une adolescente maintenant, en 2020, avec tout ce qui se passe dehors. Sincèrement, je trouve que c'est tellement violent, tellement dur. Moi, je tire mon chapeau tous les jours aux ados d'aujourd'hui. Hein. Vraiment, les gars... Pff, lâchez rien parce que c'est vraiment une période que j'aimerais pas vivre maintenant. C'est trop dur dehors.
Mais les parents sont relous en plus.
Enfin, les parents sont chiants.
En fait, je sais pas, mais donc moi j'ai deux filles qui ont 14 et 12, tu vois.
Ben voilà.
Et tous les autres parents de leurs potes et tout, ils sont tous chiants. T'as
ben
juste
ouais.
envie de leur dire, mais vous, on a le même âge. Pourquoi,
ben
vous,
ouais.
êtes, pourquoi vous êtes sérieux comme
mais
ça?
Mais moi, c'était tout le temps chez moi, les copains de mes
ah
enfants.
Ben voilà.
C'était le squat permanent chez moi. Je disais, mais putain, on a un 50 mètres carrés, on est 12. Les gars, pourquoi? Bah parce que nous, on regardait des films tous ensemble, on commandait des pizzas géantes, on dormait tous dans le salon avec des couettes, on faisait des tipis. Bon, alors, c'est pas, je veux pas encenser ma famille, on n'est pas la famille idéale, on a eu des grands moments d'engueulade, etc., comme ouais. toutes les familles. Mais je veux dire, moi, j'essayais tout le temps d'être là pour faire en sorte que ça soit justement pas trop dur et qu'ils puissent tout me dire, qu'il y ait une tanasse de quelqu'un qui a ouais. pris de la cam, quelqu'un qui a pris de l'alcool, quelqu'un qui a fait une connerie. Moi, je voulais être là, je voulais pouvoir gérer le truc, ouais. tu vois, et j'en ai géré des putains de dossiers, et toujours en essayant de les accompagner. C'est pas le but du jeu, c'est pas de les étrangler, de les étouffer,
ouais.
tu vois, et je trouve que les parents...
Comment t'as fait pour voilà. éviter de tomber dans de devenir sérieuse comme ça, toi? Trop sérieusement adulte, tu vois?
Je pense que la vie est tellement, tellement difficile. Putain, un peu de légèreté, quoi. Mm. Parce que t'en chies tellement. Et encore, moi, ça va. Hein, même si c'est, je sais pas de quoi sera fait demain, parce qu'il faut pas croire, la télé, bon, ça s'arrête demain, oui. merci, au revoir, hein, mm. salut les gars. Hein. Mais je trouve que la vie, elle est tellement dure que si tu mets pas un peu de légèreté, un peu de cynisme, un peu de second degré, un peu de bienveillance, bah, ne la vis pas la vie, quoi. Tu vois, c'est tellement la merde que je trouve que, voilà, moi, si j'étais homme politique ou ministre de l'Éducation nationale, déjà, je réformerais complètement l'école. On se fait chier à l'école avec des programmes scolaires de merde. On n'apprend pas aux enfants. Non seulement, le premier truc qu'il faut apprendre aux enfants, c'est à être heureux, être bien avec eux-mêmes, respecter les autres. Il y aurait beaucoup moins d'emmerdes. Hein. Et se parler, se communiquer, plutôt que de leur apprendre de la géométrie variable et des calculs de probabilité dont tout le monde se branle et qui ne leur serviront jamais. Moi, j'ai dit clairement à mes enfants, je m'en bats la race que vous ayez zéro en maths. En revanche, le premier qui a moins de 12 en français, là, je fracasse la mâchoire. Donc, franchement, je préfère qu'il soit bon en histoire.
T'es anti-maths.
Mais non, mais parce que les sciences, etc., si t'as envie d'être scientifique, ouais. je comprends.
Ouais.
Mais la base de ce qu'on te donne à l'école... ne te servira jamais dans la vie. Est-ce que tu t'es servi une seule fois de ce qu'on t'a appris en physique, chimie?
Alors moi, non, mais je pense
voilà.
que plein de gens, oui.
Après,
tu vois.
Ceux qui ont vocation ouais. à ça. Après, si t'as vocation à être tu vois,
ouais.
chercheur en physionomie, ouais. Vas-y, y a aucun problème. Mais je veux dire, je trouve qu'on devrait aussi mettre des matières à l'école comme la vie pratique, la vie courante, le bonheur, le respect de l'autre, tu vois, qui sont très importants pour moi. Aujourd'hui, c'est si tu n'apprends pas à te respecter, respecter l'autre et à vivre en communauté, bah regarde ce que ça donne. Tu vois, tous les jours, c'est un peu l'enfer. Donc, je pense que c'est important d'apprendre aux enfants à bien se comporter entre eux, à bien se tolérer les uns avec les autres, parce que les petits enfants le font.
Mmh.
Mais en
bien
grandissant,
sûr.
Ils perdent ça.
Bah oui.
un enfant de nature, hein, collectif, va tout le temps vers les autres. Même, tu sais, quand tu vois les enfants qui vont naturellement vers les animaux avec les parents qui font « Ah !» comme ça, alors que non, enfin, tu vois, bon. Et ben, les enfants, naturellement, vont vers les autres, sont heureux de voir leurs amis. Et c'est les parents qui leur apprennent des codes de merde. Mais à l'école, on devrait t'apprendre à être heureux. Et ça serait plus intéressant que de t'apprendre la loi de Newton, tu vois. Fondamentalement, tu vas pas t'en servir. Voilà, c'est tout.
Merci Valérie.
Merci monsieur mademoiselle.
C'était super.
Salut.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Katou, qui a dit le 11 août, inspirant, humain et sincère. Au fil d'une discussion entre amis, nous découvrons l'humain et le travail derrière le succès. J'adore ce podcast que je trouve très inspirant, car livré avec beaucoup de sincérité. À poursuivre. Et bah, ça tombe bien, Katou, parce que j'avais pas prévu de l'arrêter. Merci beaucoup à toi. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.